Le marteau de minuit de Donald Trump s'est abattu sur les installations nucléaires iraniennes. 12 bombes pénétrantes larguées par B-2 et 30 missiles Tomahawk tirés par des sous-marins ont frappé les sites de Natanz, Ispahan et surtout Fordo, la forteresse sous la montagne. Le caïd du Moyen-Orient doit désormais faire la paix, a commenté Donald Trump, cependant que l'Iran menace de conséquences éternelles. Mais dans le même temps, des doutes s'élèvent sur l'efficacité réelle des frappes conduites qui pourraient ne ralentir qu'un temps l'Iran dans sa progression vers l'arme atomique et constituer une simple démonstration de force de Trump, à la fois pour forcer la négociation et, dans le cas où le régime tomberait, pouvoir dire que c'est grâce à lui. Mais que changent vraiment ces frappes à la situation? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 22 juin 2025, il est 21h35, nous sommes en compagnie de l'intenté Léo Portal. Comment vas-tu Léo?
Ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu?
Mais ça va bien, nous sommes happés par l'actualité, donc nous sommes là au rendez-vous pour un live qui est donc un live spécial. Que signifie un live spécial? Mais qu'il n'y aura pas de live privé derrière, donc nous répondrons aux questions des donateurs et des souscripteurs, éventuellement quelques questions à choir. En fin d'émission, devant tout le monde, vous en avez de la chance, bande de petits vénards. Émission rendue nécessaire naturellement par cette actualité, qui est que les États-Unis sont désormais dedans. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment? On va en discuter. Et aussi parce que, comme j'ai fait mon live de la semaine vendredi sur ce sujet, ben, naturellement, il faut actualiser un peu parce qu'il y avait un doute sur le fait que les Américains interviendraient ou pas. Et maintenant, le doute est levé. Alors, il est levé partiellement, parce qu'en réalité, on se demande toujours dans quelle mesure, en réalité, les Américains interviennent. C'est-à-dire que Donald Trump a procédé à ce bombardement qui, somme toute, est tout de même très, très limité, hein, parce que ça fait au total une cinquantaine de vecteurs, si on compte tout, d'après ce qui a été publié. Alors, il y a certes les bombes pénétrantes qui sont censées taper assez fort, mais semble-t-il qu'il n'y a pas de certitude quant aux résultats qu'elles ont obtenus. Sur le site de Fordo, on entendait beaucoup parler ces derniers temps du fait que même ces bombes extrêmement pénétrantes ne pouvaient pas atteindre les installations elles-mêmes. Ce qui est évoqué le plus aujourd'hui, c'est que ce sont essentiellement les issues qui ont été visées, peut-être aussi une partie du système de ventilation, j'en parlais l'autre jour, mais pas plus. Hein. Donc naturellement, ça limite les frappes. En plus, semble-t-il qu'il y aurait une partie de l'uranium qui aurait commencé à transiter dans les jours qui ont précédé, alors que. Donc peut-être qu'il est à l'abri et donc était hors de portée des frappes. Mais il faut se souvenir par exemple que quand je dis ça de tête, hein, mais je suis à peu près sûr du chiffre, quand les États-Unis d'Obama étaient intervenus en Libye contre Kadhafi, ils avaient balancé 110 Tomahawks. Alors là, bien sûr, là, ce qui est important, surtout les GBU, plus que les Tomahawks, parce que les Tomahawks, ça tape essentiellement en surface de certaines installations. On se demande d'ailleurs quel est l'intérêt de ces frappes, étant donné que les Israéliens avaient déjà tapé dans ces endroits-là, donc aller viser des choses en surface en plus, est-ce que c'est plutôt pour le feu d'artifice ou pour autre chose? On ne sait pas trop. J'attendrai de voir les analyses de professionnels dans les jours qui viendront. Mais voilà, pour l'instant, ça ne va pas chercher loin, et surtout, ce qui limite ces frappes-là, c'est le discours de Donald Trump derrière aussitôt, c'est-à-dire que il frappe pour dire derrière que en gros il a fini de frapper. Ça rappelle ce qu'avaient fait justement les Iraniens l'année dernière. Alors ça ne veut pas dire que tout s'arrêtera là, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté américaine d'entrer dans une guerre longue à ce stade et de se lancer dans des campagnes de frappe massives. Il y a la volonté vraisemblablement de Donald Trump de forcer la fin de la négociation avec les Iraniens pour qu'enfin les Iraniens se couchent. Donc la situation en réalité sur le terrain ne change pas tellement par rapport à ce que j'ai dit vendredi, c'est-à-dire que même si jamais il devait y avoir d'autres frappes américaines qui étaient conduites aérienne, ben, ça va pas plus loin au niveau de la capacité du régime à continuer à résister au sol. Et surtout, ce que ça semble envoyer encore une fois comme message, c'est que malgré tout, Donald Trump ne veut pas de guerre. Il veut bien un petit peu du prestige de la guerre, du fait de montrer qu'il est capable de taper. Ça tient presque de la diplomatie de la canonnière à ce stade, hein. Mais il veut vraisemblablement pas aller plus loin. Et donc, le risque qu'il y a, en réalité, c'est que un régime comme le régime iranien actuellement, lui, soit tenté précisément de voir ça et d'être décidé à payer pour voir, c'est-à-dire call the bluff, comme on dit, de voir si ce que Donald Trump a derrière ça. Et on peut se poser la question. D'ores et déjà, il est question d'éventuellement de bloquer le détroit d'Ormuz. Alors j'ai appris aujourd'hui, je ne le savais pas, que semble-t-il, en réalité, le détroit d'Ormuz, ce qui est navigable pour des raisons de profondeur, ce sont des couloirs qui se situent, c'est Yves Bourdillon qui expliquait ça tout à l'heure sur Twitter, se situent intégralement donc dans les eaux du sultanat d'Oman en fait. Et donc pour fermer le détroit en fait, l'Iran devrait grosso modo entrer en guerre avec le sultanat d'Oman puisqu'il s'agirait de frapper sur son territoire, de semer des mines, etc. Ce qui est un petit peu compliqué. Je rappelle que le sultanat d'Oman est un pays neutre dans le conflit actuel et qui servait de médiateur précisément pour la négociation. Donc aller taper dans les eaux territoriales du médiateur, c'est pas génial. Donc c'est peut-être une limite là-dessus, mais il reste que le régime iranien s'est fait autoriser par le Parlement iranien à le faire. Alors l'avis est essentiellement consultatif, ça ne va pas à ce stade, semble-t-il, plus loin que ça. Mais disons que ça permet de lancer la menace, en fait, et de créditer la menace en disant, voilà, maintenant on peut le faire sans avoir à le faire. Donc ça envoie également un signal. L'autre possibilité de riposte, qui est peut-être à mon avis plus évidente que ça, parce que moins compliquée à gérer, et qui consisterait plus encore directement à essayer de vérifier si Donald Trump bluffe ou pas, c'est de taper un certain nombre d'installations, précisément ce que Donald Trump a interdit de faire, puisqu'il a dit que si c'était le cas, ça serait rencontré avec la plus grande force, etc. C'est amusant de voir d'ailleurs comme Donald Trump et l'Iran parlent beaucoup par hyperbole dans cette situation-là. C'est souvent pas suivi de l'effet qui est au niveau de l'hyperbole. Mais si les Iraniens décident de vérifier la détermination des Américains, le plus évident, ce serait effectivement de commencer à taper dans la région sur l'installation américaine, comme ils avaient pu le faire parfois par le passé, sans qu'il y ait trop de conséquences, en particulier s'ils se mettent à le faire à travers leurs milices, hein, notamment, on sait, en utilisant les milices pro-iraniennes en Irak, ce qui est un moyen habituel un petit peu d'essayer de frapper les Américains dans la région. Et auquel cas, là, on entrerait aussi, les Américains aussi pourraient être attirés petit à petit dans une forme de guerre longue. Et ça, c'est quand même une des caractéristiques du monde actuel, peut-être d'ailleurs un héritage de la guerre froide d'une certaine manière, c'est qu'il y a toujours un flou de la guerre. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais trop à quel moment on est en guerre ou à quel moment on n'est pas en guerre. Et parfois, ça ressemble véritablement, on est en guerre, mais on en sort très vite. Prenez le cas entre l'Iran et l'Inde, par exemple. Là, assez clairement, on est dans une situation où il y a une guerre entre Israël et l'Iran. On a des États-Unis qui décident de faire des frappes qui peuvent caractériser le début d'une entrée en guerre, mais tout en disant on n'entre pas en guerre. Donc c'est une manœuvre de police, en fait. C'est comme ça que c'est présenté. On dirait pas que c'est une opération militaire spéciale, mais c'est un petit peu la même logique, si vous voulez. C'est la volonté de faire quelque chose sans dire qu'on est en guerre, parce que politiquement, ça a un coût naturellement. Donc je pense qu'il y a beaucoup de limites en fait dans ce qu'est en train de faire Donald Trump. Il y a une véritable, ça ressemble plutôt à un positionnement pour pouvoir dire qu'il l'a fait comme ça. Si jamais il y a un petit peu côté beurre à l'argent du beurre, si vous voulez, c'est-à-dire qu'à la fois il vient en aide à Israël et d'une certaine manière il reprend la main pour dire que c'est quand même nous qui sommes à la manœuvre. En gros, c'est pas moi qui ai décidé de commencer à taper, mais je tape un peu pour montrer que je suis là. Si jamais le régime avait des fragilités, il pourra dire que ben, c'est lui qui a fait tomber le grand ennemi. En même temps, si jamais ça tombe pas, il pourra dire que ben, c'était juste pour ramener la négociation et que s'ils veulent pas négocier, ensuite éventuellement prévoir d'autres frappes. Mais c'est ce souci de modérer sa responsabilité. Mais donc sur le militairement à ce stade, ça change pas grand-chose à la situation. Ce qui va éventuellement changer, c'est l'éventuelle escalade qu'il y aura du côté iranien, encore une fois, sur les troupes américaines dans la région. Et là, c'est la question qui se pose. Et donc, il faut revenir justement à ce qu'est la mentalité de l'Iran aujourd'hui. Et quand je dis mentalité, je parlais de mentalité historionomique, notamment, c'est-à-dire collectivement, où en est ce pays. Je l'ai rappelé la dernière fois, c'est un pays qui est très très peuplé, à tel point que même si les frappes israéliennes ont fait des morts, je crois qu'ils ont dû tuer quoi, 100 ou 200 responsables dans l'organigramme, des scientifiques de haute valeur, etc. Mais pour ce qui est en tout cas de. Alors les scientifiques, c'est plus compliqué à remplacer naturellement. Mais pour les autorités militaires, les chaînes de commandement, etc., sur un pays de 90 millions d'habitants, si vous tuez une centaine de kikis, logiquement, vous devez pouvoir les trouver dans l'appareil. Ça permet à des gens de monter en grade rapidement, donc ça fragilise pas le régime en soi, vraisemblablement. Ce qui peut fragiliser le régime, c'est si les gens ne veulent plus prendre des postes parce qu'ils ont peur d'être visés. À ce stade, apparemment, c'est pas le cas. En plus, Raménei est en train, semble-t-il, de prendre ses dispositions pour nommer au moins des candidats à sa succession, histoire d'éviter qu'il y ait une vacance du pouvoir si jamais il était tué. Donc la question, c'est encore une fois la psychologie globale. Alors ce qu'il faut voir et comprendre sur ce régime, c'est que, je le rappelle, c'est un ancien régime. C'est-à-dire que ce n'est plus un régime révolutionnaire et il n'y a plus la volonté, on va dire, religieuse un peu messianique qu'il pouvait y avoir au début, parce que souvent c'est mentionné. Cette idée qu'en gros, qui ferait presque de l'Iran une espèce d'État islamique en 10 fois plus gros, et donc qui est prêt en fait à risquer son existence même et à s'effondrer pour une espèce de guerre messianique. Alors, c'est pas vraiment le cas, parce que encore une fois, ce ne sont à la tête de l'Iran, il n'y a pas des gens qui sont arrivés au pouvoir l'année dernière et qui sont dans une espèce de dynamique précisément messianique révolutionnaire. Ce qui est le cas des révolutionnaires en général. Vous prenez par exemple, les Soviétiques qui se lancent aussitôt à l'attaque de la Pologne au début des années 20, avec l'idée de déclencher la révolution mondiale. Ça, c'est vraiment du révolutionnaire. Et là, vous avez une dimension eschatologique dans le combat, éventuellement de sacrifice de soi, qui va très très loin. À partir du moment où on était déjà sous Staline, avec l'idée du socialisme dans un seul pays, où on revient à des préoccupations nationales qui s'installent dans la durée, et encore plus ensuite avec l'URSS, vous vous retrouvez dans un régime qui s'est d'une certaine manière embourgeoisé et qui a des objectifs, de manière générale, qui sont beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus patients et aussi beaucoup plus prudents que ce genre de régime révolutionnaire. L'Iran de Roménie au début des années 80 aurait pu être dans cette veine de tout donner, de se lancer dans la guerre tous azimuts, parce que c'était un régime qui était une première pulsion, on va dire, d'impérialisme revanchard. Avec les autorités actuelles, on est dans autre chose. On est dans un système qui a eu le temps de s'installer. Le corps des gardiens de la Révolution sont des gens qui tiennent aussi une bonne partie de l'économie. Donc c'est toute une classe sociale, en fait, contre laquelle il s'agit en fait éventuellement d'entrer en guerre et qu'il s'agit de renverser, si on veut véritablement renverser le régime. Donc on est sur quelque chose de tout à fait différent. Donc on est sur quelque chose qui prend du temps et je renvoie à ce que j'ai déjà expliqué sur le fait que ben, tant que vous n'avez pas cassé le pilier militaire solide ou en tout cas fragilisé suffisamment le pilier militaire du régime, en l'occurrence le corps des gardiens de la Révolution, vous ne faites pas tomber le régime. Alors, il n'empêche pour autant que sans être forcément suicidaire et sans avoir les velléités que peuvent avoir les impérialistes revanchards, c'est-à-dire beaucoup dans la prise de risque, l'attaque, etc., les anciens régimes sont dans la phase, vous savez, que j'appelle souvent d'impérialisme initial, c'est-à-dire c'est la première tentative d'avoir une, comment dire, d'accomplir une sorte d'ambition impériale nationale. Alors, typiquement, pour comprendre ça, vous prenez l'exemple de l'Empire allemand. Bon, l'Empire allemand, il constitue enfin l'unité de la nation allemande en 1871. La guerre de 1914, par l'état-major allemand, les élites allemandes, la pensée allemande, était perçue comme étant la guerre qui permettrait définitivement d'installer l'Allemagne au firmament des nations, en fait, et donc de détrôner l'Empire britannique. C'était ça la volonté qu'il y avait du côté d'état-major allemand. C'est-à-dire c'était à la fois de prendre la place de premier, ou en tout cas de se mettre enfin premier à égalité avec l'Empire britannique, et d'autre part, de tuer le concurrent principal de manière à ce qu'il ne risque jamais lui-même de menacer la place de l'Allemagne, c'est-à-dire la Russie, qui était derrière. Alors la France était sur le chemin finalement, mais en aucun cas la France était la menace principale, puisqu'elle estimait l'Allemagne estimait l'avoir battue déjà en 1940, en 1870. Donc le but de l'Empire allemand, c'était ça. Donc il y avait quand même une volonté de faire la guerre, et on le sait d'ailleurs, dans l'état-major allemand, il y a eu le sentiment en 1914 d'une opportunité à saisir pour se lancer dans cette guerre. Bon. Je dirais pas que l'Iran est dans la même situation. Il l'était peut-être il y a quelques années. C'est-à-dire que je vous rappelais, dans des émissions anciennes que j'avais faites sur l'Iran, je vous avais rappelé que dans les années 2018-2019, on était véritablement sur une augmentation régulière de l'assertivité de l'Iran. Régionalement, il y avait eu des frappes en direction du territoire de l'Arabie Saoudite, il y avait des raffineries, c'était peut-être l'augmentation du soutien au Yémen, aux Houthis à l'époque, et pratiquement c'était l'apogée, on va dire, de l'expansion iranienne dans la région, en direction de la Syrie, le Hezbollah qui était à ce moment-là peut-être plus puissant que jamais, etc. L'État islamique, qui après avoir été un danger pour la continuité de l'empire iranien, c'est-à-dire l'empire, le croissant chiite, hein, qui avait été vaincu, en partie par les Iraniens, puisque les milices iraniennes ont aussi lutté contre l'État islamique, mais bon, c'est aussi les Occidentaux qui ont beaucoup bombardé. Mais donc il y avait ce mouvement-là d'assertivité, qui a été un peu déjà, qui avait subi un premier coup avec l'assassinat de Soleimani, mais en grande partie c'était Soleimani qui était l'architecte de cette stratégie, ou le maître d'œuvre en tout cas, de cette stratégie régionale de l'Iran. Et le but final finalement de cette stratégie de ce qui est devenu l'ancien régime iranien, le régime des mollahs, c'est, je vous en ai déjà parlé, c'est en fait d'expulser, c'est-à-dire de devenir le premier régionalement. Les Iraniens savent très bien, hein, vous savez, ce que je vous explique au niveau des ambitions nationales et de la psychologie nationale, ça se fait toujours à travers le prisme de la masse stratégique relative perçue. C'est-à-dire que vous n'avez pas la volonté de devenir le pays qui dominera le monde si vous êtes un petit pays pauvre. Votre ambition impériale, elle sera à ce moment-là limitée à un référentiel qui correspond à ce que vous pouvez éventuellement faire. Et donc pour l'Iran, à ce moment-là, ça serait d'être la puissance dominante régionalement. Il ne s'agit pas de devenir une puissance mondiale, mais de devenir la puissance dominante dans sa région, dans son espace, le Moyen-Orient. C'est-à-dire la puissance avec laquelle il faut dealer, en fait, si vous voulez faire quelque chose dans cette région-là. C'est ça l'ambition de l'Iran. Ambition logique. La Turquie a la même, hein, ambition localement. Donc, naturellement, c'est pour ça aussi que ces ambitions, mais ça fait 500 ans qu'elles se heurtent, en fait. Et avec cette montée en puissance donc de l'Iran ces dernières années, enfin jusqu'à il y a 2-3 ans, il y avait l'objectif vraisemblablement de ce qui serait l'équivalent de la dernière guerre de l'impérialisme initial iranien, ce serait d'expulser la présence américaine du Moyen-Orient. Et si possible aussi de détruire Israël, en sens que c'est perçu aussi comme un élément, un porte-avions américain finalement au sol. Mais véritablement, c'est ça. C'est expulser l'influence américaine du Moyen-Orient pour pouvoir être la puissance régionale. Parce que tant que les États-Unis sont solidement implantés localement, ben, ça bride cette ambition-là. Donc il y avait cette ambition qui s'est déployée, je vous disais, jusqu'à la veille de la pandémie. Puis ensuite, la pandémie a ralenti un peu ça, puisqu'elle a ralenti ça aussi. C'est le fait que tout d'un coup, Donald Trump se mette à taper directement en haut de l'organigramme, et notamment en tuant Soleimani. Donc naturellement, ça a mis un petit coup d'arrêt temporaire. Ensuite, il y a eu la pandémie. Et depuis 2 ans, vous savez ce qui s'est passé. Il y a eu Israël qui a étrillé le Hezbollah. Qui a étrillé aussi le Hamas, qui était aussi un proxy dans une moindre mesure de l'Iran. Les Occidentaux et Israël ont tapé sur les Houthis. On leur a quand même fait assez mal, hein, depuis un an. Et puis, il y a eu le régime syrien de Bachar al-Assad qui est tombé. Et donc, D'un coup, l'Iran a perdu déjà une bonne partie de ce qui était son empire il y a encore 3 ans. Hein. Donc, un empire qui est déjà en fait à moitié démembré. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, c'est ce qu'on voit à la toute fin. C'est un petit peu la situation déjà de l'empire soviétique, on va dire, quand on arrive en 90-91. Hein. C'est-à-dire que le pacte de Varsovie avait déjà été perdu en grande partie. L'Iran est actuellement un petit peu dans cette situation-là. Bon, sauf qu'en plus, il prend des bombes. Et la mentalité, donc la question c'est de savoir où en est la mentalité iranienne à ce moment-là. C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont encore dans l'idée qu'ils peuvent tenter d'expulser les Américains de la région ou est-ce qu'ils sont déjà purement en mode survie? C'était une question que je me suis déjà un petit peu posée vendredi. Très honnêtement, la maturité du régime, on voit qu'elle en a pris un coup avec les dernières manifestations des 2 ans. Quand vous regardez, j'ai vu des vidéos qui était partagé sur Twitter l'autre jour par Middle East Spectator, qui montre des vidéos de Téhéran, la rue de centre-ville de Téhéran, en mai dernier, donc c'était avant les frappes israéliennes. Et vous voyez une société qui s'est déjà énormément occidentalisée, dans la façon dont vivent les jeunes, etc., dans la façon dont les femmes ne sont pas voilées, tout ça. Donc là aussi, alors ça ne veut pas dire que c'est applicable à la totalité de l'Iran, c'est vraisemblablement pas applicable dans la plupart des endroits de l'Iran, mais à Téhéran même, qui est la capitale, le siège du pouvoir, en général quand vous avez une révolution qui se fait, c'est surtout dans les milieux urbains et en particulier dans la capitale, vous voyez qu'au niveau de la classe moyenne iranienne, déjà, les restrictions ne passent plus. Et c'est vraisemblablement une suite de la rébellion qu'il y a eu il y a 2 ans. Alors, vraisemblablement, dans la périphérie et dans un certain nombre de villes plus petites et des endroits du pays qui sont plus conservateurs, eh bien, la loi est toujours appliquée avec dureté, mais vraisemblablement, ce n'est pas le cas dans le centre-ville. Donc, il y a déjà une évolution qui est en train de se faire. De ce point de vue-là, les frappes et l'entrée en guerre directe peuvent effectivement avoir un petit effet de ralentissement. J'ai dit l'autre jour pourquoi, notamment parce que quand vous dispersez les gens, vous les empêchez de manifester. Maintenant, il demeure que je pense qu'au stade où on en est et au stade de force où on sort encore, malgré tout, les gardiens de la révolution, je pense que ils sont pas abattus et qu'ils sont pas encore juste sur une phase de repli à essayer de sauver le régime. Je pense qu'ils sont capables de frapper les Américains. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une partie de l'orgueil national qui n'a pas été encore abattue et on voit qu'ils sont toujours là. Ils ont montré que, je veux dire, ils ont balancé les missiles en sachant les conséquences que ça aurait sur Israël l'année dernière et ils ont montré surtout que chaque fois qu'on les mettait devant le choix d'escalader ou pas, ils escaladaient. Alors, ils pouvaient escalader en disant juste derrière, on ne fera pas plus. Hein. Ils escaladaient, on va dire, pour le principe. Mais ils le faisaient quand même. Parce que c'est dans leur dynamique, ils se sentent obligés de le faire. Ils se sentent obligés de le faire vis-à-vis de la partie du peuple qui ne comprendrait pas qu'ils ne le fassent pas. Ils se sentent obligés de le faire parce que peut-être les faucons gagnent plus de pouvoir aussi dans ces situations de menace nationale. En tout cas, ça fait que jusqu'ici, ils l'ont fait. Donc, on ne voit pas pourquoi cette fois-ci, ils ne le feraient pas. Alors, on pourrait se dire, ils ne le feraient pas parce que la puissance. Américaine et colossale et risquerait de les écraser sous les bombes. Oui, mais là aussi, si vous avez un régime qui se sent fragilisé et qui peut avoir peur pour sa légitimité, il faut se souvenir que c'est un régime qui a été s'est solidifié dans ce qui a été la guerre patriotique finalement contre l'Irak. Donc, il peut y avoir une idée de se dire que plus on prend de bombes sur la tronche, en fait. Plus pendant ce temps-là, la population se révoltera pas. Donc il peut y avoir ce calcul-là qui peut être fait, ou en tout cas, je dirais pas ce calcul-là peut être fait, vous provoquez pas les bombardements pour faire tenir le régime, mais vous vous dites, le régime a pas plus de chances de tomber si on se prend des bombes que si on s'en prend pas. Et avec une autre idée aussi, c'est que vous pouvez vous dire, si on se prend beaucoup de bombes sur la tronche, il est possible qu'on soit un petit peu plus aidé par les Russes. Par les Chinois, il y a eu des déclarations ces temps-ci qui peuvent être plus ou moins bien interprétées. Et vous devez avoir une partie des Iraniens qui veulent croire, même si ce n'est pas forcément vrai, que quand la Russie met en garde les États-Unis sur une intervention, eh bien, forcément, l'intervention américaine provoquera quelque chose chez les Russes qui n'est pas arrivé jusque-là. Vous pouvez avoir des tas de gens dans l'organigramme iranien qui se disent bon, si les Russes ne nous ont pas aidés jusque-là, c'est parce que les Américains ne sont pas intervenus. Maintenant que les Américains sont intervenus, les Russes vont nous aider. À mon avis, ça ne sera pas le cas dans l'immédiat, mais ils peuvent le penser. Certains peuvent le penser aussi à propos des Chinois. Et par ailleurs, encore une fois, ils peuvent se dire Donald Trump ira pas plus loin parce qu'il n'a pas envie, parce qu'ils peuvent lire ce qui se dit dans un certain nombre de médias occidentaux sur le fait que la population américaine à 60% ne veut pas d'une nouvelle guerre, etc. Et donc, que éventuellement, si jamais ils attaquent les Américains dans la région, ben, peut-être qu'ils riposteront, ils balanceront quelques bombes, mais ils feront pas plus. Et ils pourront tirer. Et surtout, l'Iran pourra à ce moment-là activer à nouveau ses milices irakiennes qui, pour l'instant, lui servent à rien. Parce qu'en fait, le truc, c'est que plus ça va, plus ses capacités, les capacités de l'Iran de frappe, s'amenuisent à distance sur les missiles, etc. Et donc, plus sa capacité de dissuasion éventuellement, elle est sur d'autres modes. Elle est sur le fait de, par exemple, de miner le détroit d'Ormuz, et elle est sur le fait d'activer des milices, on va dire, au corps à corps. Et donc, à ce moment-là, quand il vous reste qu'un marteau, bah, tout ressemble à un clou. Donc, il peut y avoir ça qui peut jouer aussi. Et je pense que ça va jouer, en fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il va y avoir une forme nouvelle d'escalade de la part de l'Iran, peut-être très mesurée, mais qu'on est quand même entré dans une sorte d'engrenage comme ça. Et puis, vous avez aussi une chose qui existe peut-être dans les mentalités iraniennes aujourd'hui, c'est le fait qu'en fait, bah, ils ne se sont jamais battus. C'est-à-dire que les gardiens de la révolution, je veux dire, jusqu'ici, ils ont utilisé des proxys. Ils ont utilisé le Hezbollah, ils ont utilisé les milices irakiennes, etc. Mais au bout d'un moment, vous devez avoir un certain nombre de gens qui se disent, là aussi, dans l'organigramme iranien, il faut tout faire soi-même. C'est-à-dire que si c'était nous, ça se passerait mieux. Donc vous avez ce mécanisme-là aussi qui peut jouer, je pense, assez clairement. Donc, d'après moi, il va y avoir une escalade iranienne sur les forces américaines dans la région. C'est ce que je pense ça plus plausible que les frappes sur les détroits d'Ormuz. Je trouve ça aussi plus plausible que le fait que les Iraniens décident tout d'un coup de se remettre à négocier. Parce qu'encore une fois, malgré tout, on est sur un régime qui est un impérialisme initial, donc un régime qui est dans une posture nationaliste. Et donc qui n'est pas du genre à se courber tant qu'il n'y a pas eu de changement des élites dirigeantes. Et le changement des élites dirigeantes, il n'a pas eu lieu. Donc, vous voyez, par exemple, si le Parlement iranien, par exemple, avait pris le pouvoir sur le corps des gardiens de la Révolution, là, je dirais, ouais, pourquoi pas. Là, ils pourront basculer vers une négociation. Tant que le pouvoir est décisionnaire est entre les mains des Pasdaran et du Conseil de la Révolution, ça paraît peu probable. Donc, en réalité, tout ce que ça change au final, pour l'instant, dans la situation de la région, c'est que ben, la situation va s'éclaircir plus vite que ce qu'on pouvait penser. En décidant de donner un choix comme ça aux Iraniens, Donald Trump les force à faire ce choix tout de suite, celui de l'escalade ou pas. Et donc, je continue à penser qu'on se dirige vers une guerre longue, mais dans laquelle, désormais, il est vraisemblable que les USA doivent intervenir. Régulièrement. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je vais répondre à vos questions. Avant cela, je soulignerai simplement que vous êtes encore nombreux ce soir. Vous êtes très nombreux sur la chaîne à être là à chaque émission, hein, 5 ou 6 000, et à voir quasiment toutes les émissions, quasiment en intégralité. Encore des gens nous ont rejoints l'autre jour pour nous aider. Je vous en remercie. Mais vous voyez, quand il y a une actualité, on est au rendez-vous, on est là. Je pense que si vous êtes là aussi nombreux ce soir, c'est que vous attendiez justement qu'on en parle. Alors, si vous voulez nous soutenir un petit peu en passant, si faiblement que ce soit, je sais toujours que sur tous les gens qui sont là tout le temps, justement, il y a une partie du public, c'est les gens qui rage-watch, donc ils donneront jamais, puisqu'ils nous détestent, c'est pas un problème. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il y a des gens qui ont les moyens, qui regardent et qui apprécient. Donc, c'est à ceux-là que je m'adresse pour pas hésiter à nous soutenir. Voilà. Est-ce qu'on a des questions, mon cher Léo?
Alors d'abord, on souhaite la bienvenue à Aurore C, qui nous a rejoint comme compagnon historionome.
Bienvenue.
Et ensuite,
On en a eu d'autres d'ailleurs depuis 2 jours qu'on peut peut-être saluer. Je crois il y a eu Thomas Gouraud, Victor Cohen, je crois qu'ils étaient déjà là l'autre soir. Louis-Victor Legendre, Vin Roux et Mathieu Gallot aussi, qui nous ont rejoints. Voilà.
Ben, sur Tipeee, du coup, on remercie Jackie, on remercie Edgar, on remercie Florent, on remercie Claire, bien sûr,
Naturellement.
Nicolas, et je crois que c'est tout. Ouais.
Ouais, c'est non, Sébastien,
Sébastien aussi?
Baptiste et Pierre aussi, je crois. Ouais.
Alors, question de Jules 1978. Est-ce que ces frappes américaines vont inciter les Chinois et les Russes à venir, j'imagine que tu as déjà pas mal répondu, à venir ouvertement au soutien des Iraniens?
Alors, dans l'immédiat, je pense pas. Parce qu'encore une fois, c'est pour ça que je disais que la situation n'a pas tellement changé par rapport à vendredi. Ça changerait si Donald Trump, honnêtement, j'aurais considéré que la situation avait changé si Donald Trump avait bombardé et en disant voilà, ça y est, maintenant on est dedans, on veut le changement de régime, vous démissionnez, vous foutez le camp, etc. Là, il fait pas ça du tout. En gros, il dit bon voilà, on a bombardé, maintenant il y aura rien si vous signez un deal et que vous prenez pas l'arme nucléaire. Donc dans ce cas-là, on revient sur ce que je disais vendredi, c'est-à-dire que les Russes et les Chinois peuvent rester dans l'expectative en disant on attend de voir ce qui se passe. Si ça se trouve, il n'y aura rien. Et le régime restera en place. Peut-être qu'ils n'enrichiront pas, mais à la limite, les Russes et les Chinois ne veulent pas particulièrement que l'Iran ait d'armes atomiques, donc ils s'en occupent pas. Et en attendant, si la tension monte, y a du pognon qui rentre dans les caisses, encore une fois, russes, hein, je le dis, et ça occupe les forces américaines qui restent. Autour de l'Iran, donc ça plaît aussi aux Chinois. Donc à mon avis, pour ce qui s'est passé pour l'instant, ça justifie pas de changer. Ça peut changer assez vite si les Iraniens tapent sur les Américains dans la région, si les Américains décident de riposter fortement, que Donald Trump commence à dire qu'il veut que le régime tombe, etc. Là, éventuellement, on se posera la question. Pour l'instant, la situation par rapport à vendredi, je pense qu'elle n'a pas changé.
Question de Baptiste P. Devons-nous faire des réserves d'essence?
À mon avis, oui, moi je suis allé faire le plein. Enfin, faut faire, parce que bon, je ne sais pas s'il y aura pénurie, mais enfin, en tout cas, ça risque de coûter plus cher. Encore une fois, je parierais pas immédiatement sur le blocage du détroit d'Ormuz, mais.
Et t'as fait un plein quoi. Moi j'avais
Ouais.
une vitelle de 50 centilitres, je l'ai remplie aussi, au cas où tu
Ouais.
vois. On remercie
Ah, bah, au bout d'un
Dominique.
moment, j'ai pas de jerrycan, de toute façon, donc je ne vais pas aller remplir.
Après, mais tu fais comme moi, tu sais que moi qui ai 17 voitures, j'ai été toutes les remplir. Mais tu t'as ça toi aussi, non? T'as pas mal de bagnoles. C'est une blague qui vient du vlog, désolé. On remercie Dominique pour son don.
Merci.
Emmanuel Gomez pour la question chouard. Est-ce que toutes les analyses concernant le bluff de Trump et de stratégie de triple bande à la QAnon ne tombe-t-elle pas face à une attaque frontale et unilatérale des États-Unis?
Pas forcément, parce que l'attaque elle-même peut être un bluff. Et en fait, l'impression que j'ai, plus on avance, plus l'impression que j'ai, c'est que, vous savez, j'avais beaucoup dit que Trump était capable de faire des ruptures, et vraisemblablement il l'est, hein, ce qu'il a fait, ce qu'il avait fait en abattant Soleimani, etc. Maintenant, Trump, plus je le regarde faire, plus je me rends compte d'une chose, c'est que. En fait, ce mec, et quand vous regardez les vieilles vidéos où il était interviewé dans les années 90 et 2000, en fait, vous vous apercevez, je pense que c'est le cas. Ce mec avait une idée de ce qu'il fallait faire à l'époque. Pour lui, grosso modo, il fallait continuer la politique de Reagan. Et en fait, Donald Trump, dans les années 2000, il a compris ou il s'est dit que les guerres à répétition, ben c'est la position de MAGA maintenant. Hein. Les guerres à répétition en Afghanistan, en Irak, les guerres au Moyen-Orient, tout ça, ça servait à que dalle, c'est de l'argent dépensé, c'était des conneries, etc. Il l'a dit d'ailleurs que c'était complètement idiot d'avoir écrasé l'Irak parce que du coup, l'Irak, il n'y avait plus rien en face de l'Iran, alors que si on avait été malin, il aurait fallu garder les deux et continuer à jouer l'un contre l'autre comme on faisait dans les années 80, etc. À l'époque de Reagan. Et donc en fait, Donald Trump, c'est un mec qui a tiré les leçons de ce qu'il fallait pas faire dans les années 2000. Et qui décide d'agir différemment aujourd'hui, c'est-à-dire en ne faisant pas ce qu'on a fait dans les années 2000, c'est-à-dire en déclenchant des guerres dans tous les sens. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans les années 2000. On est dans les années 2020. Il y a des tas de situations qui nécessitent effectivement de recourir à la force, de taper, etc. Et donc la leçon apprise par Donald Trump, elle est un peu à contretemps. Et quelque part, c'est la force des modèles historiognomiques, mais ça fait mal de le dire. C'est que d'une certaine manière, Donald Trump, il rejoue la guerre froide. Si vous refaites du Reagan, vous rejouez la guerre froide. Et donc, il dit, on veut pas de guerre, on tape, mais on va négocier, mais on n'entre en guerre avec personne, on va pas risquer de la guerre nucléaire, etc. En pensant que ça suffira pour calmer les Russes, pour faire tomber les Chinois, etc. Alors qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique. Et donc, il y a effectivement toujours une part de bluff dans ce que raconte Trump, parce que il n'a pas envie fondamentalement d'aller au fond à la guerre. Et surtout, je pense, et c'est ça le plus important, qu'il pense que ce n'est pas nécessaire. Qui pense que tout ça est évitable. Et quand vous pensez que quelque chose d'aussi grave qu'une guerre est évitable, eh bien vous faites tout ce que vous pouvez pour l'éviter. Et quand la situation exigerait au contraire que vous fassiez pas ça, mais que vous tapiez fort du poing sur la table pour éviter qu'il y ait la guerre, eh bien tout ceci ne fait qu'aller dans le sens de la guerre. Parce que, encore une fois, le fait de rejouer la guerre froide face à la situation qu'on connaît actuellement, c'est typiquement ce que j'appelle depuis le début, et depuis avant même le début, de l'invasion russe en Ukraine, c'est ce que j'appelle le syndrome du vainqueur de la guerre d'avant. C'est-à-dire que la précédente grande guerre, la précédente grande confrontation géostratégique, vous l'avez remportée par certains moyens. Et donc, quand un nouveau défi géostratégique de même ampleur se présente, vous pensez qu'il faut réutiliser les mêmes moyens pour la remporter. Or, ce n'est pas le même type de confrontation géostratégique. Donc, les mêmes moyens ne suffiront pas. Les mêmes moyens pourraient suffire contre la Chine, qui est dans la même situation que l'URSS, c'est-à-dire un nouvel ancien régime aussi. Ça pourrait même suffire avec l'Iran, ça ne peut pas suffire avec la Russie. Et le problème, c'est que tous se combinent ensemble dans une situation qui, à mon avis, n'est pas compatible avec ce genre de stratégie. Donc, il y a quand même du bluff de Trump. Il n'y a pas, encore une fois, une stratégie de fond avec une certitude, je ne pense pas. Je pense vraiment qu'il a été doublé par Israël sur le coup, qu'il a un peu changé d'idée en se disant bah, peut-être qu'on peut faire la guerre sans que ça coûte trop cher et en fait, donc autant taper. Mais voilà, il est un peu prisonnier des fausses leçons qu'il a apprises ou des vraies leçons qu'il a apprises, mais qui ne s'appliquent plus dans le contexte actuel.
Encerolo, frère historionome depuis 39 mois, nous dit merci encore pour le plus grand des congrès et longue vie au Yorarien.
Merci.
On souhaite la bienvenue à Yannick Godin en tant que compagnon historionome.
Bienvenue.
Florian Bourélis, quel est le pouvoir et le rôle du président Massoud Pezeshkian? Pezeshkian.
Il a nominalement le pouvoir exécutif en fait, hein, mais le problème c'est que au-dessus de lui, il a le gardien de, il a le guide suprême, et la réalité du pouvoir décisionnaire, il est entre les mains du guide suprême. C'est-à-dire qu'en fait, le président sert presque de premier ministre d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il gère les affaires essentiellement intérieures, il gère pas la grande stratégie, c'est pas lui qui commande les forces armées, donc voilà, si pour faire très vite et pour caricaturer, celui qui a le rôle du président de la République en France, grosso modo, c'est le guide suprême, peut-être encore plus étendu, et donc le pouvoir réel du président iranien, ça permet en fait d'habiller le régime avec des oripeaux démocratiques en faisant semblant que le régime est démocratique, encore une fois. Mais grosso modo, c'est comme le Parlement qui a un rôle principalement consultatif. En fait, tout ça, ce sont c'est du vernis, quoi.
Question de ASV. Vous employez les termes d'ancien régime ou de phase thermidorienne. Pouvez-vous adopter des termes déliés de l'historiographie et ou d'une époque particulière? C'est pas pouvez-vous, c'est pensez-vous. Pensez-vous adopter les termes déliés de l'historiographie et ou d'une époque particulière?
Oui, on pourrait, je pourrais essayer d'inventer des termes totalement détachés de ça, mais il y a un sentier de dépendance, c'est qu'on s'est tellement habitué à discuter de ça dans le canal recherche entre nous, on sait tout de suite de quoi on parle quand on parle de ce genre de choses. C'est compliqué, il faudrait genre faire une espèce de nomenclature complète. On pourrait, mais Pour l'instant, je ne vois pas la nécessité.
Jules 1978, pensez-vous possible qu'Israël use de l'arme atomique contre l'Iran si elle ne parvenait pas à ses fins de manière conventionnelle?
Je pense pas, non. Encore une fois, l'arme atomique, c'est vraiment quelque chose que vous utilisez en dernier ressort. Quand vous êtes menacé de manière existentielle, tant que l'Iran n'a pas l'arme atomique et qu'il risque pas de s'en servir, je vois pas pourquoi Israël bombarderait avec ça. Surtout que, regardez, apparemment, d'après les infos qui sortent, alors on n'a pas de certitude encore, hein, c'est beaucoup de la rumeur, mais il semble qu'il y ait une partie, par exemple, de l'uranium qui était sortie du site de Fordo pour être ailleurs. Or, ce qui pouvait éventuellement justifier, enfin justifier, oui, intellectuellement en tout cas, l'usage d'armes nucléaires, c'était par exemple pour essayer de détruire ces installations qui étaient inatteignables autrement. On a dit que même les Américains avaient envisagé l'utilisation de nucléaires tactiques, je n'y crois pas trop, mais ça a peut-être été discuté en salle de crise, mais voilà, l'idée que ça a été véritablement envisagé comme solution, je ne pense pas. Mais donc à partir du moment où le site de Fordo a été partiellement vidé, ça changerait rien quoi, et ça coûterait beaucoup trop cher en matière de légitimité politique à Israël, même si Israël a montré qu'il pouvait s'asseoir sur ce qu'on pensait d'eux. Mais voilà, à mon avis, ça serait très contre-productif à ce stade.
Lucien Furcart, qu'on remercie pour son don, nous dit bonsoir. Y a-t-il des
Bonsoir.
parallèles historiques qui vous semblent pertinents pour éclairer la potentielle issue des événements? J'ai challengé ChatGPT et Gemini là-dessus, mais c'était assez décevant.
Ben sur la situation actuelle, bon, ben alors j'en ai fait de manière générale sur la situation d'anciens régimes et ce qu'ils peuvent tenter de faire. Enfin, c'est ce que j'aborde d'habitude, hein, c'est quand je parle aussi de l'URSS. Bon, l'URSS, ça pourrait être vu comme un contre-exemple à ce que j'ai dit, dans le sens où l'URSS, l'armée rouge, n'est jamais allée au combat, finalement, n'a pas tenté un dernier baroud d'honneur. Il y a eu un petit coup d'État contre Gorbatchev, mais c'était tout. Mais la différence, c'est que l'armée rouge, elle avait déjà été étrillée et démoralisée, on va dire, pendant toutes les années 80, avec la guerre en Afghanistan. C'est pas le cas, puis en plus étrillé, enfin, au niveau des pertes, pas vraiment, mais c'était plus moralement que ça avait miné la population pour un truc qui servait à rien. C'est pas le cas des Iraniens, qui encore une fois ont essentiellement utilisé proxy tout autour et n'ont pas engagé leurs forces directement. Encore une fois, je pense que on voit beaucoup de choses actuellement qui sont de l'écume. Hein, ces frappes, Donald Trump, etc. Si on regarde fondamentalement, la réalité, c'est que depuis 2 ans, il y a eu une montée lente vers une confrontation directe. Voilà. Là, encore une fois, avec des allers et des retours, par exemple, on avait vu une accumulation de moyens militaires américains il y a 3 mois autour de l'Iran. On s'était dit, ah, peut-être que Donald Trump va frapper si jamais il n'y a pas de négociation. Finalement, tout le monde était rentré à la maison. Israël a décidé de frapper, donc ça revient. Là aussi, on a un petit côté loi log périodique, encore une fois, qui mène à la crise. Alors, voilà, moi c'est ça pour moi qui me pousse dans mon interprétation de tout ça.
Florian Bourelis, avec cette guerre, le rêve de Silicon Valley pour Israël est-il terminé? Quelles conséquences économiques pour Israël?
Ça dépendra du temps que durera cette guerre, encore une fois, et de ce que sera son issue exactement. Véritablement, hein, la question de combien de temps ça durera. Israël sera peut-être pas frappé sur son sol véritablement dans la durée. Si il commence à y avoir des affrontements directs entre les États-Unis et l'Iran, on peut penser que la menace viendra de moins en moins directement sur le territoire d'Israël. Comme je l'ai dit, à mesure que le principal outil de dissuasion ou d'action ou d'intimidation iranien, ça sera ces milices ou le corps à corps, en fait, hein, tout simplement. Eh bien, Israël sera un petit peu plus protégé parce qu'ils sont loin et que la capacité iranienne de corps à corps avec Israël a été réduite à quasi rien depuis la chute de la Syrie et l'affaiblissement du Hezbollah. Donc je ne suis pas sûr qu'Israël soit si terriblement impacté au plan, sur le plan économique, surtout à long terme. Et puis à long terme, je renvoie à ce que j'ai déjà dit à mon avis sur ce qui se passera dans la région, c'est-à-dire quand le régime iranien sera tombé, le principal antagoniste d'Israël, ça deviendra la Turquie, et ça deviendra aussi, je pense, le principal antagoniste d'une bonne partie du monde arabe. Et donc on ira probablement vers quelque chose d'un petit peu confédéral autour d'Israël, et à mon avis, donc Israël, sur le long terme, ne souffrira pas de ça.
Tu veux dire que la Turquie deviendra l'ennemi du monde arabe, c'est ça?
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, non, je crois que c'est ce que tu as dit, mais c'était juste pour préciser.
Oui.
Sergent, compagnon historienum depuis 8 mois, encore merci pour vos émissions et bon courage pour tenir le rythme au vu de l'actu.
Merci à vous.
Attends, je regarde s'il y a autre chose. Oui, il y a d'autres choses. Yem. Est-il réaliste qu'une puissance comme la Corée du Nord fournisse des têtes nucléaires à l'Iran?
Alors, on peut tout imaginer, mais honnêtement, je pense pas. Je vois pas bien quel intérêt la Corée du Nord toute seule aurait à faire ça.
C'est une annonce qui a été faite, mais tu l'as vue, j'imagine. Hein?
Non, je l'ai pas vu.
Ah, mais la Corée du Nord a fait cette annonce-là, qu'elle pourrait faire ça, quoi.
Qu'elle pourrait faire ça? Ils ont annoncé qu'ils pourraient faire ça?
Ouais.
Ouais, c'est pour faire chier, mais après, ça peut être un moyen de se hausser du col aussi pour eux, hein,
C'est
de faire
parce
encore
que
plus.
Trump manque à Kim, c'est ça? Il
Peut
veut qu'il
peser, mais.
revienne.
Peut-être pour ça, c'est peut-être les Russes qui leur ont dit, vous pourrez dire ça, parce que c'est Medvedev aussi qui en avait parlé avant en disant que certaines puissances pourraient donner une arme nucléaire. Donc, à voir. Mais de là à la donner véritablement, très dangereux quand même. Hein. Très, très dangereux.
Florian Bourelis, dans la révolution nationale iranienne, pensez-vous que l'ayatollah Khamenei peut rester avec un pouvoir symbolique comme au Japon.
Non, je pense pas parce qu'il est personnellement tout à fait détesté et perçu comme étant quand même le problème. Ce qui n'était pas le cas de l'empereur du Japon quand même. Hein. C'était vu différemment. Hein. Ah oui, en fait, j'ai bien vérifié. Il est effectivement bien ayatollah, hein, ce qui est normal, ce qui est dans un problème de hiérarchie chiite. Par contre, ses diplômes, en tout cas, son savoir est mis en doute. Dans les cercles, il était assez critiqué parce qu'il. Apparemment, il pense que c'est pas un ténor théologiquement. Voilà.
On remercie Geoffroy Fallot pour son don. Il nous
Merci.
dit on t'aime, Filou.
Merci, je vous aime aussi.
Les gens ne le savent pas, mais Filou, c'est ton vrai prénom. Hein.
C'est ça.
Non, je rigole. question de Iruma. Sommes-nous au milieu de la guerre États-Unis-Chine par proxy? Israël vs Iran, Pakistan vs Inde, Ukraine vs Russie. Le but étant de multiplier le nombre de fronts pour saturer, pardon, les États-Unis.
Alors, je sais pas, je pense pas, encore une fois, je pense plutôt que, encore une fois, c'est le syndrome du gendarme occupé. C'est-à-dire que quand vous voyez que le gendarme est occupé quelque part, ben, ce que vous faites, vous, ça se verra moins. Et donc, très clairement, l'attaque de l'Ukraine par la Russie a déclenché quelque chose avec ça. Parce que vous aviez une grosse guerre. Et donc, un peu partout, les gens ont pu se dire que s'ils tentaient quelque chose, ils ne seraient pas embêtés. Et après, c'est sûr que y a un côté, j'avais parlé de cette idée de la bagarre de Saloum. Le côté, quand vous êtes un petit peu embêté, vous essayez de déclencher une bagarre générale en vous disant comme ça, vous éviterez d'avoir des problèmes, vous. Ce qui est le cas de la Russie en Ukraine, très clairement. Actuellement, elle a envoyé Sourovikine, semble-t-il, pour servir d'instructeur en Algérie. Les rumeurs disent pour préparer une éventuelle guerre contre le Maroc. Ça ne veut pas dire qu'il y a une volonté de déclencher la guerre contre le Maroc, mais très clairement, l'Algérie se prépare de tout temps à une guerre contre le Maroc. Et donc là, elle s'y préparerait encore plus, et avec l'assistance directe, finalement, de la Russie, d'un officiel russe, hein, puisque là, on n'est pas sur des mercenaires, on est sur un type qui a eu un rôle de premier plan, on s'en souvient en Ukraine, qui a eu un rôle un peu de premier plan aussi dans le coup d'État de Prigojine, même si ça a été, il avait été vite, vite circonvenu, mais ça joue aussi. Et donc, clairement, on a on a de plus en plus de chances que les choses se déclenchent. L'avantage, enfin, l'avantage, disons que jusqu'à présent, le fait que le gendarme ne soit en réalité véritablement occupé nulle part, parce que les États-Unis se sont engagés directement dans aucun conflit, fait que cet effet reste limité. D'où l'intervention vraisemblable de Donald Trump, notamment entre l'Inde et le Pakistan, même si l'Inde maintenant le nie. Voilà, l'intervention entre l'Iran et Israël, il a réussi à bloquer pendant un moment, bon, mais finalement Israël a décidé de frapper. Mais si les Américains commencent à être impliqués directement, c'est-à-dire si vraiment ils commencent à se déployer, à bombarder plus régulièrement l'Iran, etc., je pense que là, ça va encore accélérer le risque, la probabilité que se déclenchent d'autres conflits ailleurs, précisément parce que ce syndrome, finalement, jouera à plein.
Alors, on a plus ou moins fait le tour. Il y a par exemple, tu l'as un peu évoqué déjà, mais ne serait-ce pas la Turquie via l'Azerbaïdjan qui mettra en place un front terrestre face à l'Iran?
Alors, comme je l'ai dit, ça peut jouer aussi. Alors, à mon avis, via l'Azerbaïdjan, ce n'est pas la première priorité. Enfin, ce que risque de faire la Turquie d'abord, c'est d'essayer de bouffer l'Arménie pour faire le corridor de Zanguezour avec l'Azerbaïdjan, et qui permettrait d'abord, d'ailleurs, à l'Azerbaïdjan de restaurer sa continuité territoriale avec le Nakhitchevan. Mais déjà, ça peut être d'une certaine manière un coup porté à l'Iran parce que l'Arménie est un partenaire traditionnel de l'Iran que l'Iran était censé protéger. Donc ça pourrait jouer. Autre chose qui pourrait être faite en direction de l'Iran, c'est essayer d'agiter une partie des Azéris, par exemple. Et ça, c'est une vieille peur que l'Iran a vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Mais la manœuvre prioritaire, je pense, que ferait la Turquie, c'est l'utilisation de la Syrie contre l'Irak et en Irak. Pas contre l'Irak, pardon. En Irak, contre les milices iraniennes en Irak. Parce qu'en fait, si la Turquie. Ce qui fait que l'Iran a toujours plus de poids politique en Irak que la Turquie, c'est notamment parce qu'ils ont la présence massive des milices pro-iraniennes sur le territoire. Donc la priorité turque pour prendre le contrôle de l'Irak, pour rattacher l'Irak à sa sphère d'influence directe et en expulser l'Iran, ça va être de taper sur les milices pro-iraniennes. Et donc, cet effet-là va probablement être recherché effectivement dans les mois qui viennent. Et la Turquie pourra avoir une occasion en or de faire ça, parce que si jamais les milices iraniennes se mettent à taper sur les installations américaines, les Américains voudront à leur tour taper sur les milices pro-iraniennes, donc les bombarder, et voudront aussi sans doute avoir des supplétifs pour les aider à aller les traquer sur place, parce que Donald Trump ne voudra pas vraiment envoyer de boots on the ground. Donc, à mon avis, encore une fois, c'est plutôt en Irak que ça se jouera.
On remercie Alexandre pour son tip sur Tipeee. Il nous dit un grand merci.
Moi qui vous remercie.
Question de Poisson. Trump a décidé sans l'aval du Congrès. Est-ce encore une tentative de centraliser le pouvoir? Trump ne va-t-il pas retourner une partie de sa propre population en ne respectant pas le Congrès?
Ben, le président américain peut, hein, c'est le commandant en chef, il peut décider de frapper là où il estime nécessaire. L'autorisation du Congrès, il faut la demander pour des opérations militaires, me semble-t-il, qui dépassent les 60 jours. Donc à partir du moment où c'est censé être une frappe ponctuelle, le président des États-Unis, à ma connaissance, n'a pas besoin de demander d'autorisation du Congrès pour ça. Donc j'ai vu que Ocasio-Cortez avait gueulé là-dessus, mais je pense que ce n'est pas justifié. Parce qu'encore une fois, et d'ailleurs il a tout de suite dit qu'en gros, c'était pas une guerre, quoi. On a tapé, maintenant vous bougez pas, vous revenez à la table des négociations. Donc voilà.
Et enfin, on finira avec cette question. User Valou. Peut-il y avoir en plus de l'Ukraine et de l'Iran un engrenage avec Taïwan, ce qui pourrait nous mener à une troisième guerre mondiale, ou selon toi, Philippe, une quatrième guerre mondiale, n'est-ce pas?
Alors oui, mais encore une fois, je reste persuadé, hein, alors c'est peut-être une erreur de ma part, je reste persuadé que la Chine, ça serait pas en direction de Taïwan, mais toujours en direction de l'Inde qui aurait un problème. Je continue à penser que c'est par là que ça va se déclencher. plus qu'à Taïwan. Peut-être que la Chine cherchera aussi à aller vers Taïwan dans le cadre de la guerre, tant qu'à être. Mais j'ai du mal à penser que ça puisse se déclencher comme ça, par une offensive sur Taïwan. Ce sera peut-être le cas, mais je pense pas que ce sera le cas. Ou alors, enfin, si vraiment les Américains étaient. Je peux imaginer un scénario dans lequel la Chine se lance à l'assaut de Taïwan avant qu'il y ait eu quoi que ce soit dans l'Himalaya, par exemple, contre l'Inde, etc. C'est véritablement si les États-Unis, par exemple, notamment la marine américaine, est mobilisée à la fois autour de l'Iran et, par exemple, dans l'Atlantique, après que la Russie, par exemple, se soit lancée et attaqué les pays baltes, et vous ayez, par exemple, les sous-marins russes dans l'Atlantique, une espèce de nouvelle bataille de l'Atlantique, voilà, pour le dire très rapidement, hein. Et à ce moment-là, vous auriez donc une US Navy qui serait très, très mobilisée. Et là, les Chinois pourraient en profiter. Bon, tant que l'US Navy est libre de se déployer, et en plus, là, elle est en train de donner quand même une belle démonstration de force avec la rapidité du déploiement autour de l'Iran et les premières frappes, je pense que c'est un peu tôt pour les Chinois.
Nous avons terminé.
Ben écoute, c'est très bien. Nous avons fait 1 heure d'émission, ou presque. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Naturellement, s'il y a encore des développements dans la semaine, on fera d'autres lives spéciaux, hein, si l'actualité le justifie. On verra en fonction de quelle sera l'actualité. Je n'en sais rien. Peut-être que si jamais l'Iran a attaqué effectivement les bases américaines et qu'il y a d'autres bombardements, on en fera une demain. Je ne sais pas. On dépend de l'actualité. Tout ce qu'on peut vous promettre, c'est de ne pas vous laisser tomber s'il se passe des choses vraiment intéressantes et de venir les commenter avec vous. De notre côté, encore une fois, n'hésitez pas à nous soutenir. Si vous voulez avoir accès à plus de contenu, il y a toute l'offre des souscriptions qui est là, pardon. Et si vous n'aviez pas vu le précédent live, et que vous découvrez la chaîne avec celui-ci, je vous encourage à aller le voir. J'avais dit tout un tas de trucs sur lesquels je suis parvenu en détail cette fois-ci, mais c'était juste pour compléter ce soir. Et puis bien sûr, vous pouvez aller voir aussi parce Léo avait diffusé en fin de live la bande-annonce des vlogs et des conférences qui seront mises en ligne autour du congrès astronomique, qui était un très bel événement encore une fois et pour lequel je remercie tous les participants et tous ceux qui, par leur soutien régulier ou leur nouveau soutien, ceux qui se sont rajoutés, nous aident à faire encore ce genre d'efforts, de développement et de diversification. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci Léo.